Radio Esperanza.
Radio Esperanza.
Esperanza, c'est propre.
On peut dire ce qu'on veut et surtout de la spontanéité.
Radio Esperanza.
Vous nous écoutez sur radio.esperanza.be, mais aussi en FM sur les ondes des radios partenaires.
Radio Panique.
Radio Panique
105.4 à Bruxelles.
Radio Campus Bruxelles, Nantes, 92.1.
Radio Larzac.
Sur
87.8.
Et 98.6.
48 FM.
48 FM sur 105.0.
Vous nous écoutez sur Rhône.
88.1.
Radio Campus Amiens sur 87.7.
UFM 106.9 à Mons.
Radio.
Radio Esperanza.
Esperanza.
Bonjour, bonjour, vous êtes en direct sur Radio Esperanza, c'est le retour de Possible or Not Possible, l'émission connectée au village des possibles sur le festival Esperanza tout au long du week-end à Floref. Nous sommes là pour une heure avec Lisette.
Bonjour Camille.
Bonjour Lisette.
Bonjour à tous et à toutes, ça va?
Tout va bien, c'est reparti pour un nouveau Possible.
C'est reparti pour un nouveau Possible avec Sylvain qui est à la technique.
Bonjour Sylvain. Et donc nous avons, aux côtés de Lisette, nous avons Nicolas Van Roosevelt, qui est le réalisateur du court-métrage Diversion, qui est diffusé dans La Grange avec d'autres films. Bonjour Nicolas.
Bonjour Camille, bonjour Lisette.
Bonjour. Alors on va reparler de tout ça tout au long de l'émission. Jingle.
Mon petit lapin, j'aime tes grandes oreilles. Tes petites
là, ça va
notes
bon
et
encore,
ta queue
encore,
en pompon.
Mon petit lapin.
Un autre monde.
Possible.
Mon petit lapin, tu es mon seul ami. Tu ne me dis rien, mais je sais que tu m'aimes aussi.
Nous y revoilà, 17h30, c'est reparti pour Possible or Not Possible. Et cette nuit, justement, tout était possible. Cet après-midi aussi, Calypso Rose qui vient de réveiller les fêtards, même ceux qui ont veillé le plus tard au cours de la nuit écoulée. La vie a aussi repris son cours au village des possibles, entre débats et animations. Un peu partout, entre les stands de palettes, on discute, on réfléchit, on essaie d'imaginer d'autres mondes, d'autres systèmes de production, d'autres processus de décision. Dans toutes les têtes, on se demande comment produire les biens dont nous avons besoin, sans polluer, détruire, exploiter. Tout le monde tente de prouver qu'un autre système d'échange est possible, au bénéfice de tous. Face à ces rêves et projets plus ou moins aboutis, on trouve pourtant un adversaire bien réel, c'est la thématique du festival cette année. Depuis des mois, les Européens négocient avec les États-Unis un accord de libre-échange, le TTIP, pour Transatlantic Partnership Agreement, ou le traité transatlantique pour le commerce et les investissements. À la manœuvre, on retrouve la Commission européenne, mandatée par les 28 États membres, et derrière les négociateurs, toute une batterie de lobbyistes engagés pour faire valoir les intérêts de la grande industrie plutôt que l'intérêt général. Alors le TTIP, les lobbies, la prise de décision, la démocratie, on va parler de tout ça pendant une heure. Mais avant tout, on peut peut-être faire un petit rappel sur le TTIP. On en a déjà parlé sur les ondes de Radio Esperanza. Mais peut-être que Nicolas, tu peux nous refaire une brève présentation en quelques mots.
Du TTIP ?
Du TTIP, du projet de TTIP.
Une question piège, parce qu'on se plante facilement, parce que le sujet est vaste et très compliqué et assez méconnu, mais en très très large, le TTIP est un traité de libre-échange qui permettrait donc comme une libre circulation des biens qui sont aussi bien créés en Europe, qui iraient donc vers les États-Unis et des États-Unis vers l'Europe, en sachant que les États-Unis n'ont pas les mêmes lois en vigueur envers les industries qu'en Europe. Ça veut dire qu'il y aurait une égalisation du marché mondial. Et ça veut dire aussi que du coup, on perdrait pas mal de liberté et de droits sur la production en Europe.
Et alors concrètement, de quoi on a peur ? Qu'est-ce que c'est le risque pour le consommateur, le citoyen, l'individu ?
Le risque pour le consommateur, les citoyens, les individus, écoutez, ce serait une sur-rentabilité. En fait, ce serait une course à la rentabilité, au fait de produire plus pour vendre plus. On aurait le secteur culturel qui se verrait diminuer, une part des marchés moins importante à ce niveau-là. Donc voilà, c'est une liberté large qui serait perdue, et surtout on fermerait de plus en plus les frontières humaines au profit de l'ouverture des frontières économiques.
Il y a eu beaucoup de mobilisation. Mon micro, je crois, Sylvain, je sais pas s'il est très... Si, on s'entend ? Merci. Il y a eu beaucoup de mobilisation quand même en Belgique. Enfin, moi qui suis française, il y en a... Enfin, pour un petit
pays comme la Belgique, j'ai trouvé qu'il y avait beaucoup d'actions, beaucoup de mobilisations, en tout cas sur les deux dernières années, là, sur la question du TTIP qu'on appelle plus TAFTA en France. En fait, dans toutes ces actions, finalement, vous êtes arrivé à un moment donné à avoir envie de faire un film. Pourquoi passer par le film pour raconter cette histoire et vulgariser, j'imagine, un propos qui est relativement technique et difficilement compréhensible pour la majeure partie des gens ?
Je pense que quand on passe par la fiction, on touche un plus large public que si on passe par un documentaire ou par une vidéo pas militante. Parce que le fait de raconter une histoire dans une fiction, voilà, c'est, on raconte une histoire, on plonge le spectateur dans un monde irréel dans lequel il peut s'identifier et s'attacher à certaines choses. Et il peut ou pas accepter la thématique du TTIP qui est pris dedans. Et en tout cas, il reçoit ce message-là. Donc, c'est un peu compliqué dit comme ça, je m'exprime assez mal, mais en très très gros, ce qu'il y a, c'est que dans le film, le TTIP reste en filigrane. Et l'histoire principale, c'est que les gens vont se rattacher au personnage principal de Alan, qui est renfermé chez lui et qui cherche à s'émanciper, à sortir dehors. C'est une histoire à laquelle tout le monde peut s'identifier. Et en filigrane, on parle du TTIP. On met en avant le fait qu'il est arrivé dans une société ultra recluse à cause de ça. Et ça permettra, à travers ce court-métrage et à travers la thématique abordée, de créer une réflexion auprès du spectateur qui aura peut-être envie alors de pousser plus loin les recherches sur le TTIP.
Parce que pour reprendre pour les auditeurs et les auditrices, on est donc en 2026 dans ce film. Alan vit avec sa maman. Ils sont enfermés depuis un an. Enfin, ils ne sont pas sortis de chez eux depuis un an. Et on est 5 jours avant la commémoration du traité libre-échange, il me semble.
Oui, c'est ça.
Je l'ai vu ce matin, du coup, je suis opérationnelle. Et en fait, y a quelqu'un qui vient livrer les courses, puisqu'en fait, eux ne sortent plus de chez eux. Il y a quelqu'un qui vient livrer leurs courses tous les jours, pratiquement, qui amène aussi les médicaments de sa maman. Et en fait, à un moment donné, il voit par la fenêtre une grosse bagarre, en fait, entre des activistes, en gros, qui sont en train d'afficher des mobilisations pour commémorer... Enfin, pour faire une contre-manif, en fait, une contre-commémoration, un peu une manif de droite, comme on ferait, ça pourrait s'appeler. Et en fait, cette fille se fait taper sur la gueule. Et finalement, il l'accueille, elle rentre chez lui, et ils ne se connaissent pas, et ils se rencontrent comme ça.
Tout à fait. Contre toutes les règles qu'il s'est lui-même posées et qu'on lui impose de l'extérieur.
C'est ça, c'est qu'en fait, les gens... tellement peur qu'ils ne sortent plus et en fait l'État est complètement sécuritaire et il y a plus de liberté dans il y a plus de liberté en fait dans le pays.
Tout à fait.
Et c'est intéressant parce que en fait finalement ils arrivent parce que lui au départ il a peur et elle d'ailleurs cette jeune femme avec qui il se lie un peu d'amitié elle lui dit c'est bizarre d'avoir peur de ceux qui devraient nous protéger moi ça m'a vachement marqué dans le film et finalement en fait ils vont se lier d'amitié et elle va réussir à lui passer son propos finalement en fait par l'art aussi encore une fois parce que le cinéma est un art et c'est la peinture qui est l'outil finalement qui fait le lien aussi
fait le lien entre les deux, ouais.
L'art pour faire passer les messages, pour convaincre...
Oui, tout à fait. L'art comme vecteur de communication, c'est clairement un propos qu'on a voulu tenir dans le film parce que je pense que dans le monde qu'on vit actuellement, et notamment avec la crise des réfugiés, on a tendance à vouloir avoir peur de l'autre, avoir peur de ces réfugiés qui viennent en masse parce que chez eux, ils ne peuvent plus vivre leur liberté convenablement et que nos pays peuvent leur offrir. Enfin, dans les grands mots, parce qu'en soi, non. Mais du coup, on voit une fermeture des frontières, les gens qui se recluent sur eux-mêmes. Et l'art est un vecteur d'ouverture aux gens. Et je pense qu'Esperanza représente bien toutes ces valeurs en proposant une affiche très, très mondiale avec des artistes qui viennent de partout dans le monde et qui viennent offrir leur art pour communiquer, pour proposer quelque chose et une ouverture à l'autre et créer le dialogue. Et c'est comme ça dans le film, effectivement. Donc Shana qui chante cette chanson qui est un poème perse et qui permet à Alan de s'échapper un peu de son quotidien renfermé. Et par cette musique, il se souvient de choses qu'il a vécues avant toute cette sécurité et c'est ce qui lui permet de retrouver l'inspiration pour peindre.
Et qu'est-ce que, avec ce film, il est diffusé donc essentiellement par internet, via des associations. Est-ce qu'on peut considérer que c'est un outil de combat politique qui est mis à disposition des gens qui sont engagés sur le terrain ?
Oui et non. Alors, à la base, nous, on voulait d'abord que ce soit une œuvre culturelle et artistique qui puisse être ouverte à tout le monde. Et qui puisse aussi, comme tu l'as dit, oui, servir d'outil, mais plutôt servir de base de réflexion et de dialogue. Et ce qui fonctionne plutôt bien, en fait, pour l'instant, depuis que le film est sorti, on parle beaucoup, et ça permet vraiment d'échanger avec les gens et de leur permettre de, voilà, le film parle du TTIP. Évidemment, tout ce qui est évoqué dedans, les conséquences du TTIP sont très radicales dans le film et sont volontairement exagérées, mais ça permet que les gens voient ça. Et se pose la question de savoir, ben, est-ce que ça va vraiment arriver ? Est-ce que ce TTIP, est-ce que c'est si mauvais ? Et ça permet en tout cas d'intéresser les personnes qui ne sont pas spécialement sensibilisées à ce TTIP, de déjà entendre le mot, savoir ce que c'est, parce qu'il y a beaucoup de personnes qui ont vu le film qui ne savaient pas du tout ce qu'était le TTIP et n'avaient peut-être jamais entendu parler de ça, alors que c'est quelque chose qui est hyper actuel et qui va influencer plus de 800 millions de personnes si c'est signé. Et ces personnes-là, entendre parler de TTIP, ça commence à réfléchir par rapport à ça et vont se renseigner. Et c'est déjà énorme de pouvoir faire ça et de pouvoir sensibiliser une partie de la population.
Mais justement, Nicolas, comment on fait pour sensibiliser une autre partie de la population que ceux qui sont déjà dans les luttes ou déjà, qui sont déjà concernés par ces problématiques, quand finalement ça reste dans un cadre, culturel mais associatif, hein. Par exemple, il est diffusé à Esperanza, il y a différentes associations qui portent, enfin qui diffusent, qui font la promotion du film. Mais dans ces associations, finalement, on retrouve aussi un peu des publics qu'on va retrouver à Esperanza ou dans des actions militantes, ouais, ou activistes. Fait. Et du coup, comment on arrive à passer l'autre... Qu'est-ce qu'on pourrait faire avec ce film ? Qu'est-ce qu'on pourrait espérer ou mettre en action avec ce film pour que finalement, il aille vraiment vers tous ces gens qui se sentent ni concernés ou qui même parfois n'ont même pas entendu parler du TTIP et qui pourtant sont concernés directement.
C'est ça toute la difficulté de faire un film militant, entre guillemets, parce qu'il faut savoir... trouver le juste milieu entre les personnes militantes qui sont déjà converties et qui sont en accord avec le propos du film et qui n'apprendront rien de nouveau, et les personnes qui ne le sont pas du tout, en fait, et qui risquent d'être décrochées vite fait. On a l'impression qu'on leur balance de la propagande anti-TTIP, alors que le principe de faire ça vers une œuvre de fiction, c'est avant tout de raconter cette histoire, que les gens s'y identifient. Et donc au-delà de cette diffusion en masse par les réseaux sociaux et par tous les partenaires qui ont participé au film, on essaie quand même soit de créer des diffusions dans des écoles, c'est des choses qu'on essaie de faire, donc avoir des partenariats avec des écoles pour les diffuser, parler avec les élèves, pour qu'ils aient une base de réflexion par rapport à ça, que ça les fasse réfléchir, qu'ils puissent se renseigner, parce que c'est les gens qui sont en 5e, en réto, c'est les personnes qui plus tard vont bientôt accéder au droit de vote, ils ont 17, 18 ans, donc ils ne comprennent pas spécialement la politique actuelle, parce que je pense clairement que le système éducationnel belge, en tout cas, ne leur permet pas d'avoir les bases pour s'intéresser à la politique.
Le français non plus.
Voilà, les Français non plus. Et donc, créer ce genre de court-métrage, ça permet déjà de s'intéresser à une partie de cette politique et peut-être de s'ouvrir un peu plus. Ça, c'est une première chose. Et si on peut l'envoyer aussi en festival, que ce soit en festival de cinéma ou quoi que ce soit, en fait, c'est pas spécialement une envie de dire « Ok, on va avoir des prix en festival », c'est pas du tout le but. Non, le but, c'est de parler après avec un public large qui peut échanger avec nous, qui peut débattre et qui peut se renseigner par rapport à ça. Et ça passe par les réseaux sociaux, mais comme tu l'as dit, les réseaux sociaux, c'est des gens qui diffusent, c'est des gens qui ont investi dans le film, qui sont déjà convertis et qui vont publier à des gens qui eux aussi connaissent le sujet. Alors qu'en festival, ce sera un public beaucoup plus large, de personnes beaucoup moins converties et qui ne s'intéressent peut-être pas encore à ce sujet-là.
Tu as dit tout à l'heure, Nicolas, que les conséquences dans le film, les conséquences du TTIP étaient volontairement exagérées. Est-ce que c'est justement pour aller toucher des gens qui sont plus difficiles à toucher que vous avez choisi d'exagérer ces conséquences ? Et est-ce qu'à l'inverse, ça ne risque pas de braquer certaines personnes qui vont dire « oui, mais bon, c'est pas ça qui va se passer non plus
». De toute façon, je pense qu'on peut pas toucher tout le monde et que tout le monde ne sera pas en accord avec le film. Et c'est normal, hein, tout le monde a son opinion politique et il y a peut-être beaucoup de personnes qui sont pro-TTIP et qui verront ce film comme un film de gaucho, bobo, altermondialiste. Mais oui, c'est volontairement exagéré, on grossit le trait parce que, de nouveau, c'est une fiction, c'est pas la réalité, ça se passera peut-être pas comme ça, mais ça aura le mérite de réveiller les consciences, et c'est en étant le plus fort possible qu'on rend la chose vraisemblable, et c'est en remontant, en ancrant le film et l'histoire dans une société qui se tient, qui est vraisemblable, mais qui est peut-être volontairement très dure, très forte, qu'on crée un peu un choc chez le spectateur qui voit, des miliciens dans la rue, des choses apportées à domicile. Et voilà, alors on va me dire que c'est exagéré, mais il n'y a pas si longtemps, pour l'anecdote, J'ai vu un discours d'un politicien d'un parti assez d'extrême droite, que je ne citerai pas, le politicien pour lui faire de la pub, mais qui parlait qu'il voulait faire entrer un accord de loi au gouvernement anti-Daesh. Donc voilà, c'est comme ça qu'il appelait antiterroriste. Et dedans, il proposait de créer un groupuscule, donc un groupe de sécurité dans lequel tous les citoyens, n'importe quel citoyen, pouvaient s'inscrire pour venir en aide aux forces de l'ordre et de l'armée. Et ça s'apparente aux miliciens de la société privée qu'on a installés dans le film. Donc c'est des choses qui sont peut-être volontairement exagérées, mais qui existent et dont certains partis politiques pensent réellement, quoi.
Ok.
Pardon. Il y a beaucoup d'infos d'un coup là.
Ouais, je voulais pas plomber l'ambiance.
Pas du tout, mais en parlant de choc et d'essayer de bousculer, d'interpeller, on a à table, autour de la table, Sébastien, coordinateur en partie du village des possibles. Bonjour Sébastien.
Salut.
Ça va?
Ouais. Et je suis pas tout seul, il y a d'autres gens qui arrivent.
Ben on espère parce qu'ils sont en retard d'une demi-heure. Moi, j'aime pas trop les gens en retard d'ailleurs. Mais c'est pas grave, on les accueillera tout à l'heure quand même en studio. Du coup, juste avant qu'on discute avec Sébastien de comment créer de chocs ou des flash mobs pour faire parler du TTIP, est-ce que tu peux nous balancer le petit jingle Sylvain qui s'appelle TTIP 003 ?
TTIP, c'est à on n'en veut pas.
TTIP, c'est à on n'en veut pas.
Flashmob anti-TTIP 7 ans à Esperanza.
Rendez-vous le dimanche 7 août à 17h20
au côté court, dans le camping festif
et dans le village possible.
TTIP 7 ans, on ne veut pas.
Radio.esperanza.be, autour de la table, deux nouvelles arrivées, Camille et Camille. Salut Camille.
Bonjour.
Et Camille.
Bonjour.
Salut Camille.
Bonjour.
Donc du collectif...
Il y en a même trois.
Trois, mais je ne l'avais pas vu, pardon, il s'assoit par terre.
Oui, bonjour.
Camille également.
Tout à fait.
Ah, c'est pour éviter d'avoir des procédures au cul, ça, non?
C'est pour éviter les procédures et pour garantir l'horizontalité dans le groupe.
Ah, formidable. Ouais, parce que les noms composés, tout ça, ça prend un peu plus d'espace.
Non, c'est-à-dire que quand la réflexion qu'on avait, c'est que quand on a une place dans les médias, après, on a aussi une place plus importante en interne. Et donc, du coup, on essaye de garantir l'horizontalité dans notre groupe. Et c'est un des éléments qu'on a mis pour ça.
Donc, vous faites partie du collectif qui s'appelle TTIP Game Over et qui est sur l'entrée du village des possibles à gauche, c'est bien ça?
Exactement.
Ok. Alors, bonjour. Camille, on a entendu ta voix?
Ouais, oui, je viens de...
C'est parce que comme il y a plusieurs Camille, il sort qu'on...
Il n'y a pas de souci,
Sébastien, du coup, on vient de passer un petit jingle. Il me semble que dimanche, à 17h20, 17h25, il y a un grand appel public à se rassembler pour mourir l'espace d'un instant, tous ensemble.
Juste l'espace d'un instant, on est d'accord.
Dans Esperanza. Est-ce que tu peux nous expliquer ça?
Ouais, en deux mots, l'idée, c'est que donc, le 20 septembre, en fait, il y a une manif nationale... organisé par la plus grande plateforme qu'on ait jamais eue sur ce genre de sujet, qui est la plateforme StopTTIP.be, dans laquelle Esperanza est notamment membre. Et du coup, le 20 septembre, il y aura dans le quartier Schumann aussi un flash mob. Et l'idée, du coup, demain à 17h15, c'est de faire un tour de chauffe. Pas une répète, mais un vrai tour de chauffe, qui sera le premier moment où, en fait, durant l'été, dans un festival, un maximum de festivaliers, on espère des milliers, vont en fait se coucher le temps d'une minute pour dénoncer les accords de libre-échange et après, ensemble, entonner le slogan qu'on a entendu dans le jingle pour dire qu'on veut pas de ces traités de merde. Voilà, appelons un chat à chat. Voilà. Donc c'est demain à 17h15 rendez-vous et entre 17h20 et 17h25, qui est le seul moment où il y a plus de concerts, si ce n'est la fin du concert de Renato, Sainte Découverte, ben voilà, on fera ce flash mob au camping festif, dans le village des devant le village des possibles, l'espace NCD, l'allée découverte, et côté court, devant la scène.
Ok, donc TTIP cette année c'est quand même lié à la thématique du festival, hein, chassons les vrais monstres et welcome refugees. Vous du coup vous êtes installé Game Over, TTIP Game Over, vous êtes installé devant le village des possibles. Ce matin on vous entendait raconter, interpeller les passants, les festivaliers dans des micros pour les inviter à des ateliers sur la désobéissance civile. Un atelier, je sais plus quoi aujourd'hui, ah non, et... au gros jeu, en fait, que vous avez, la grosse animation du festival, pour chasser les lobbyistes. C'est bien ça ?
Exactement, oui.
Vous nous racontez un petit peu comment ça se déroule, pourquoi on doit chasser les lobbyistes et comment ça se déroule sur le festival ?
Alors, donc sur le festival, il y a 10 lobbyistes qui sont incarnés par des gens du collectif de TTIP Game Over et qui sont déguisés, donc en lobbyistes habillés en costume, qui se baladent. Et ils tiennent un argumentaire totalement pro-TTIP, ils militent en sa faveur. Et le but, c'est que les festivaliers tentent de ramener ces lobbyistes devant un juge indépendant et impartial, bien sûr, qui les condamnera pour leurs crimes. Donc, une fois que les festivaliers pourront un peu les motiver à aller chasser les lobbyistes, s'ils en ramènent 4, ils ont droit à un t-shirt TTIP Game Over. Et donc voilà, et c'est vraiment tenter d'établir un dialogue entre les lobbyistes qui incarnent très bien leur rôle et qui militent vraiment en faveur du TTIP, le public et le juge pour tenter de voir exactement quel est le rôle de ces lobbyistes dans le TTIP. Et alors, il y a aussi un atelier de désobéissance civile. Camille va peut-être en parler un peu mieux que moi, je pense.
Alors peut-être, Camille, je te coupe juste avant, parce que ça va
Camille,
être lié...
Camille, parce que lui s'appelle Camille aussi, hein, donc...
Ça va être lié... Ah, bonjour. Ça va être lié à la question de la désobéissance civile, mais on a beaucoup parlé de vous, TTIP, Game Over, il y a 2 semaines à Bruxelles. Peut-être vous pouvez nous raconter un petit peu ce que vous avez fait.
Eh ben, TTIP Game Over, en fait, ça a été un appel à l'action qui a duré une semaine, pendant laquelle se déroulait un round de négociations sur le TTIP. Où une délégation de négociateurs américains était venue à Bruxelles négocier donc sur le TTIP dans un lieu tenu secret. On a
que vous connaissiez,
qu'on a connu donc d'infos qui est passé via et
grâce
qui,
à Camille en fait.
Voilà, grâce à ouais, c'est ça. Camille qui l'a dit à Camille, qui l'a dit à Camille après je pense. Voilà, c'est ça.
Et après j'ai vu Camille qui s'est ramenée et qui a dit aussi que. Enfin non ça.
Ouais mais. Camille. et du coup,
c'est
du
cool
coup,
que tu peux sortir avec tout le monde, quoi.
Aucun problème.
Vachement bien, quoi.
À fond. Et du coup, on a décidé de perturber ce round de négociation en invitant plein de collectifs et tout le monde à faire des actions de désobéissance civile autour du round.
Et concrètement, comment vous avez perturbé les négociations ?
Alors déjà, nous, Camille, nous n'avons rien fait. Hein. C'est pas nous, c'est eux. Tous ces Camilles, en fait, ont eu différentes méthodes. Ils ont, par exemple, piraté des écrans de publicité à différents endroits dans la ville.
Notamment un endroit bien connu, hein, sur la place de Brouckère.
Oui, un écran Coca-Cola. L'écran Coca-Cola de Brouckère. Peut-être que Camille veut en parler.
Ou peut-être Camille, à mon avis, je pense.
Ouais.
De source sûre, il paraît que l'écran à Manhattan est en bonne voie d'être piraté aussi.
Que dire de plus ? Oui, il y a le grand écran que tout le monde déteste qui a été piraté par un collectif qui s'appelle Crève l'écran et qui visait à dénoncer la place de la publicité dans la ville et dénoncer les actions et les négociations sur le TTIP. Là, on a appris que Coca-Cola a porté plainte contre le collectif et que
c'est
du
bien,
coup,
ça vous fait de la pub.
Oui, c'est bien, ça nous fait de la pub. Bon, après, on va quand même devoir trouver probablement un petit peu d'argent, quoi, parce qu'on nous annonce quand même des amendes assez salées. Mais voilà, c'est-à-dire que c'est en effet, on le voit aussi comme tu le dis, un moyen de refaire parler, de repolitiser la question. Coca-Cola nous prend du cerveau disponible 365 jours par an, crève l'écran, prend 15 minutes et il se tape un procès.
En gros, ce qu'on sait de source sûre, c'est qu'en fait, il y a une procédure juridique qui actuellement est en cours par rapport à des personnes liées aux actions qui ont été menées dans le cadre de TTIP et Game Over. Donc c'est de la vraie répression, c'est pas du vent.
D'accord. Ok. Donc en fait, quand vous faites des actions derrière, vous prenez des petites interpellations et parfois
les gens qui font des actions peuvent potentiellement prendre. Voilà.
Et d'ailleurs à ce propos, donc on parlait d'actions qui ont été faites pour bloquer et perturber les négociations. Il y a eu le blocage le jeudi. Et là, il y a eu 48 personnes qui ont été arrêtées administrativement, alors qu'elles bloquaient totalement pacifiquement en s'attachant à des locon pour pas que les négociateurs viennent négocier.
Alors, c'est quoi un locon ?
Alors un locon, c'est un grand fût en béton avec un cylindre à l'intérieur où on peut s'attacher. On attache son bras et en fait, c'est utiliser son corps pour empêcher aux gens de passer. Donc avec le locon, ils peuvent juste plus passer vu que la personne est attachée. Si on la déplace, elle peut se blesser. Donc c'est des personnes de nouveau qui prennent des risques physiques. Cette fois-ci.
Donc ça, ça sert quand finalement vous êtes sur une mobilisation, vous faites une action, et pour éviter qu'on vous déloge, en fait, que la police vous déloge, d'habitude, hein, on se prend les bras dessus, on fait masse, et puis finalement, ils mettent, allez quoi, un quart d'heure, 20 minutes au lieu de mettre 30 secondes. Mais là, je crois qu'ils mettent 2 ou 3 heures finalement à pouvoir vous déloger. Du coup, à 17h, en fait, revenir juste faire le lien avec le Festival Esperanza, à 17h, vous appelez à un atelier de désobéissance civile, enfin, à 17h juste là qui vient de passer, et c'est ça que vous animez, que vous racontez en fait aux personnes qui viennent participer.
Voilà, c'est ça. Et on leur raconte même qu'on peut tenir plus que 2-3 heures en fait. Si on fait ça un petit peu mieux, on peut tenir même 24, 48. Ouais, 48 heures, c'est faisable.
On en parlait tout à l'heure, un Loken c'est 300-400 kilos je crois. Donc,
ça peut aller jusqu'à la demi-tonne. Ouais.
Bon, concrètement, racontez-nous. Voilà,
comment ça se passe?
Comment ça se passe concrètement et qu'est-ce que vous racontez dans cet atelier qui est celui que vous animez dans Esperanza?
On a divisé l'atelier en différentes parties. D'abord, on demande aux gens en fait, est-ce qu'ils ont déjà désobéi. De là viennent quelques réponses qui vont un peu dans tous les sens. Et donc de là, on leur dit que c'est déjà une forme de désobéissance civile. En fait, à partir du moment où tu vas contre une loi et que tu portes un message avec et que tu décides donc de porter une lutte, c'est de la désobéissance civile. Et donc de là, on les invite à pousser la discussion plus loin. Voir comment tu peux caler ça dans une lutte, on donne quelques exemples, on parle de ce qui a été fait lors des Deep Game Over, c'est ça. Et puis après on leur donne aussi des cas pratiques, on leur montre comment fonctionne le cône, comment fonctionne la tortue, comment fonctionne le point mort.
Donc vous les mettez à terre, je sais pas comment ça se passe, pour essayer de donner des billes, des images en fait aux personnes qui nous écoutent, vous amenez vous le matériel?
Oui, c'est ça, l'objectif c'est démystifier. C'est démystifier l'utilisation de matériel pour participer à des actions. Et donc là, on avait les Loken. C'est démystifier l'arrestation. Comme on disait, il y avait 50 personnes qui ont été arrêtées lors du blocage. En fait, il aurait pu en avoir 100. Il y avait 100 personnes qui ont dit « Nous, on est prêts à aller jusqu'à l'arrestation parce que c'est des arrestations administratives, qu'il n'y a pas de casier judiciaire après, qu'il n'y a pas de procédure après, il n'y a pas d'amende, etc. » Donc tous les risques et les infractions qu'on fait sont mesurés et sont utilisés dans une stratégie, dans l'action, quoi.
Eh bien, écoutez, je vous propose qu'on en continue d'en discuter juste après Revolution de Dubbing qui sera en concert demain soir sur le festival Esperanza.
Parmi tant d'autres sur cette sphère, au fond qu'un animal parmi tant d'autres mammifères. En fait une bête féroce qui n'a plus d'adversaire, juste un roi sans couronne régnant seul sur notre terre. On a poussé les limites de manière volontaire, on va gaspiller ce qu'il reste pour faire des affaires. On a enfoui notre âme comme les déchets qu'on enterre, notre avenir on condamne si maintenant l'on désespère.
Reproduire nos erreurs comme à chaque fois, bâtir un monde meilleur qu'on ne voit pas. Épuiser nos ressources mais de quel droit?
Qu'on laisse
laisse aux futures générations. Au vu des conséquences, il n'y a pas de rédemption. Anticiper la suite face à la pollution. Si proche du précipice, il faut que nous stoppions. Si à travers les champs s'étend ce poison, que les graines d'aujourd'hui se meurent juste en poussant. Pendant que l'on s'agite en scrutant l'horizon, avant que tous ces frites prenons le bon tournant.
De quoi parlons-nous et de quel avenir?
Je sens tourner le vent.
Et dans les nuages on peut lire
nos excès et comportements.
Oh, sommes-nous devenus fous sans pouvoir réagir?
Proche de l'internement.
Notre devoir nous réunir
d'Asie, d'Afrique et d'Occident.
I need a revolution.
C'est reparti avec Possible or Not Possible, la suite de l'émission sur Radio Esperanza pendant le festival Esperanza à Floref. Depuis tout à l'heure, on discute un petit peu du TTIP, le traité de libre-échange entre l'Europe et les États-Unis. On a avec nous Sébastien, Nicolas et puis Camille encore qui viennent nous expliquer un petit peu leur engagement et ce qu'ils font pour essayer de remettre en cause les négociations de cet accord. Alors peut-être qu'on peut discuter un petit peu de la naissance de cette plateforme qui s'oppose au TTIP. Je crois que ça a un peu commencé à Paris pendant la COP21 en novembre-décembre dernier. Sébastien, tu peux nous expliquer un peu comment tout ça est né?
Ouais, donc en deux mots, ça fait un bout de temps qu'en fait, à partir des actions, notamment de l'Assemblée, enfin de la plateforme des 19-1, il y a une série de choses qui ont été faites depuis 3 ans sous le TTIP à Bruxelles. Il y a toute une série d'activistes, entre 80 et 100 personnes, qui se sont retrouvées à la COP21 pour mener aussi là des actions de désobéissance civile à l'appel des Climate Games. Et en fait, c'est à cette occasion-là qu'il y avait dans la tête de plusieurs personnes et plusieurs groupes l'idée qu'en étant à Bruxelles, en Belgique, on était quand même un épicentre géographique et politique des politiques européennes. Et que du coup, ça serait bien que le milieu activiste lance un appel à, là aussi, faire des actions de désobéissance civile. Et dans la foulée de la COP21, dans les assemblées notamment des Belges qui étaient présents à cette COP, a été discuté le fait qu'on lancerait un appel à des actions de désobéissance civile à Bruxelles.
C'est quoi la désobéissance civile, Sébastien ?
C'est désobéir à la loi. En gros, c'est enfreindre la loi pour un motif qui est légitime et c'est une action nécessaire parce que toutes les autres possibilités, je dirais pas offertes, mais présentes dans le système actuel, sont caduques, ne marchent plus. Voilà, c'est-à-dire qu'en gros, attendre que les politiciens fassent un petit doigt pour changer quelque chose, attendre que les pétitions, ça fonctionne, attendre tout ça, donc c'est ne plus attendre et passer à l'action directe. Et c'est vraiment le motif de l'appel du collectif TTIP Game Over.
Du coup, vous êtes, en fait, si je comprends bien, en fait, sur le TTIP Game Over, il y a une partie qui est vraiment action-mobilisation, en gros, pour faire poids. À côté, est-ce que vous êtes en discussion ? Est-ce que vous avez accès aux questions de plaidoyer et accès aux politiques qui... alors, je sais qu'il y a très, très peu, finalement, hein, comme c'est, tout se fait beaucoup dans l'opacité hein, sur ce traité de libre-échange. Mais en tout cas, j'ai l'impression que vous agissez sur différents niveaux. Il y a une forme d'éducation populaire, forcément, quand on essaye de raconter cette histoire du TTIP de manière différente, avec des actions différentes qui bousculent et qui tout ça. À côté, il y a la mobilisation, faire poids, faire parler de soi, ramener des gens avec soi. Et puis, à côté, est-ce que vous avez accès aux plaidoyers et aux politiques ?
Alors, accès, non, mais surtout, on ne cherche pas spécialement à y avoir accès. Il y a des ONG qui sont présentes pour ça et qui font très bien ce travail-là. En fait, TTIP Game Over, donc c'est vraiment... On tente de, oui, de démystifier la désobéissance civile, de montrer aux citoyens qu'ils peuvent totalement reprendre le pouvoir qu'on leur a volé ou en tout cas qu'on leur a, qu'ils pensent avoir perdu. Et donc, en fait, c'est une certaine manière de montrer aux gens que ils peuvent totalement s'engager pour ce sujet-là, mais qu'ils peuvent s'engager pour plein d'autres. En fait, c'est une porte d'entrée vers, vers la reprise du pouvoir des citoyens et la reprise de l'autonomie. Donc voilà, donc notre but, c'est vraiment pas du tout de jouer dans les canaux traditionnels, en quelque sorte, parce qu'on a vu qu'ils marchaient pas, surtout avec le TTIP, mais c'est vraiment de mettre les gens en lien, de mettre les gens en contact et de, d'agir ensemble pour tenter de l'arrêter.
Et si je peux rajouter...
Bien sûr, Camille.
Vas-y, Camille.
On s'est posé la question de, du lien avec le plaidoyer, avec les autres associations qui travaillent sur le TTIP. Et c'est un débat qui est récurrent, c'est quel lien ? C'est souvent des critiques l'un vers l'autre, etc. On dit souvent aux activistes que leur message politique n'est pas clair. Et on dit souvent aux associations que, qu'elles ne sont pas assez, assez combatives. Et donc nous, on a vraiment voulu répondre à cette critique. Et donc, il y a un appel qui a été signé par plein d'associations. Et on fait le lien sur notre site internet vers toutes les campagnes des associations qui nous soutiennent. Et donc, on essaye de faire ce lien entre plaidoyer et action directe en se disant humblement que nous, TTIP Game Over, on fait partie d'un mouvement plus large qui nous dépasse. Et on est dans la galaxie de gens qui militent contre le TTIP. Et donc, on ne doit pas tout faire. C'est pas nous qui devons aller faire le plaidoyer. C'est pas nous qui devons aller faire la sensibilisation. Nous, notre objectif, c'est faire un appel à action directe.
Et sur votre action maintenant, est-ce que vous êtes satisfait des résultats que ça donne ? Est-ce que vous pensez qu'il est possible d'arrêter les négociations sur ce traité ?
On ne pense pas, on sait. À ce stade-là,
est-ce qu'il y a des éléments concrets qui permettent de dire, en termes de mobilisation politique dans les partis, est-ce qu'il y a des élus qui commencent à dire « Oula, non, on n'est pas très partant pour ça ».
Il y en a beaucoup, ça remonte jusque dans les institutions européennes elles-mêmes, ça remonte jusqu'au Conseil. En fait, le truc, c'est que c'est un tel passage en force qu'au sein même des administrations, il y avait des chiffres qui disaient qu'une majorité était contre, au Parlement comme au Conseil. Et donc oui, ça remonte. Après, est-ce que ça, c'est ça qui suffira ? Est-ce qu'il faut se laisser la charge de bloquer ces négociations dans les institutions ? Non, il faut que le mouvement reste citoyen parce que je pense que c'est de là que c'est pas mal que ça a monté quoi.
Sébastien ?
Ouais, en fait, en gros, il y a 4 ans, tu prononçais TTIP, personne savait ce que c'était dans la société civile organisée dans les mouvements sociaux. Et aujourd'hui, il y a beaucoup de gens qui en entendent parler dans les assos, dans les mouvements sociaux. Et oui, et donc c'est assez clair que le fait d'avoir créé des mobilisations, des opportunités politiques pour en parler, a fait qu'aujourd'hui, par exemple, le Parlement wallon, concrètement pour répondre à Camille, le Parlement Wallon. Oui, il s'appelle aussi Camille, le gars qui pose les questions. C'est le bordel, il n'y a que des Camilles. Bah, concrètement, le Parlement Wallon aujourd'hui vote contre, par exemple, le CETA, qui est le cheval de Troie, donc l'accord entre le Canada et l'Europe.
Et petit rappel technique, s'ils votent contre, l'accord ne peut pas être validé.
Voilà, parce que c'est un accord mixte, ça veut dire qu'en fait, ça doit être ratifié par l'ensemble des parlements des différents États membres. Et du coup, si la Belgique respecte sa démocratie, j'y crois pas un mot, mais soit, c'est-à-dire que si les processus politiques habituels fonctionnent, à savoir que les parlements décident in fine de ce que l'État fédéral va voter ou pas, en l'État, aujourd'hui, le CETA ne passe pas parce que le Parlement wallon est contre, mais le Parlement flamand est pour. Et voilà. Et donc aujourd'hui, il y a énormément de députés, de parlementaires wallons et bruxellois notamment, qui rejettent ces deux traités en l'état tels qu'ils sont, tels qu'ils sont dans les textes et de ce qu'on en connaît. Donc il y a un impact. Alors qu'il y a 3 ans.
Solution locale pour un désordre global.
Tu voulais ajouter quelque chose, Camille ?
Mais oui, non, justement, moi je trouve que c'était un bel exemple, l'exemple du Parlement wallon, parce qu'on voit vraiment que ça, il l'aurait jamais fait il y a 3 ans, et que c'est vraiment parce qu'il y a une pression du mouvement citoyen qui met en fait en lumière pas mal de choses qui tentent d'être cachées. Et c'est comme par exemple Juncker, donc qui voulait faire passer le CETA en accord.
C'est qui celui-là ?
C'est le président de la Commission européenne qui voulait faire passer le CETA en accord non mixte. Justement pour qu'ils viennent pas devant les parlements nationaux et qu'ils doivent juste être votés au Conseil avec une majorité qualifiée, pas du tout avec l'unanimité. Donc on voit qu'en fait ils utilisent tout le temps des processus et des petites techniques pour en fait demander le moins possible l'avis des citoyens. Et donc si les citoyens ne s'invitent pas dans le débat public, bah en tout cas ils vont pas y être invités, quoi. Et donc voilà, donc je pense qu'il y a quand même un certain rôle du politique à partir du moment où il est capable de bloquer ce traité, mais que les citoyens doivent être derrière et doivent montrer exactement leur position. Nicolas ?
Ouais, enfin, moi, juste pour rebondir par rapport à ce que tu dis, je pense que, comme tu dis, on sait de plus en plus de quoi il s'agit, le TTIP, on entend beaucoup parler, et tu parles du rôle du citoyen, mais je pense qu'il y a quand même une grosse partie de la population qui est totalement désinformée par rapport au TTIP, qui a entendu parler, mais qui ne connaît pas les enjeux, qui ne sait pas ce que c'est réellement. Et je pense que le vrai problème, c'est ça, c'est que les citoyens ne se bougent pas spécialement parce qu'ils ne savent pas de quoi ils parlent, et qu'à partir du moment où ils ne savent pas de quoi ils parlent, bah, ils s'en sentent un peu, ils s'en lavent les mains en mode, bah voilà, ça me concerne peut-être pas directement, et parce qu'ils ne connaissent pas les enjeux. Et je pense que la première chose à faire, c'est conscientiser le citoyen et lui dire clairement quels sont les enjeux de ce TTIP et quelles seront les conséquences directes sur eux.
Je pense qu'on n'a pas le temps. Je pense qu'on n'a pas le temps de vouloir conscientiser tout le monde. Et je pense qu'on peut avoir des victoires avec une minorité de gens, si on regarde la population totale, qui se mobilise, si on est soutenu par, si on est soutenu après par des gens qui sont peut-être inactifs, mais je pense pas qu'on puisse avoir des millions de personnes dans la rue, des millions de personnes qui savent précisément ce que c'est le TTIP. Et nous, on essaye aussi de simplifier le débat pour que ce soit digeste et pour pas en faire quelque chose d'élitiste. Et donc il faut s'indigner, il faut pas connaître toutes les virgules du traité pour pouvoir s'indigner.
Oui, je pense que là il s'agit pas, pardon, je me permets, je reprends mon petit rôle d'animatrice, je pense pas qu'il s'agisse de donner toutes les clés, mais en fait à partir du moment où on a envie que les gens ou s'impliquent ou soient déjà informés, il y a forcément un travail alors qui peut passer par de l'action directe. Quand vous faites de l'action directe, c'est une forme d'éducation populaire. Quand on essaye de rendre plus léger un propos, il va forcément passer par les médias, parce que les médias vont... Moi, je faisais partie de différents collectifs en France, dont Jeudi Noir, Sauvons les Riches, qui étaient des collectifs qui faisaient ça aussi. On faisait de l'action directe sur des propos qui étaient hyper compliqués. Et en fait, on essayait de vulgariser un propos par une action mise en scène, forte, que les médias reprenaient. Et en fait, du coup, ça permettait à plein de gens de comprendre des sujets qui étaient quand même vachement techniques. Et donc, du coup, de se sentir concernés, et en plus de mettre à l'agenda politique et médiatique des sujets comme ça. Mais en fait... L'important quand même, c'est que si on veut agir de manière, je dirais, juste, il faut savoir avoir les clés de lecture. Et l'éducation aujourd'hui, et la culture, et la télévision de masse, et elle ne donne pas ces clés de lecture. Du coup, Moi, je dirais plutôt chacun, comme tu disais tout à l'heure, son rôle. C'est-à-dire que vous, c'est l'action directe et ça va répondre à tel enjeu et ça va ramener telle personne. Toi, tu vas faire du cinéma, ça va aller chercher d'autres gens. Vous, vous allez faire... Enfin, toi, t'es un petit peu dans, dans tout partout, mais je veux dire, il y en a, ils vont aller faire du plaidoyer, ils vont aller partir pour... Ils vont aller parler avec les politiques et je pense que c'est important, c'est comment on fait converger les luttes et les actions pour faire en sorte que plus on a de clés de lecture, plus on est capable d'être, enfin, d'exercer soi-même une citoyenneté et une action juste et responsable, solidaire, quoi.
Seb ? Ouais, je voulais juste commenter ce truc que tu viens de dire. Donc, je partage ce qui vient d'être dit. Et c'est vrai que là, si je prends ma casquette de la coordination des 19-20, le fait qu'on ait aujourd'hui en Belgique une plateforme qui rassemble, j'ai pas le chiffre, mais grosso modo, c'est l'ensemble de la société civile organisée, progressiste, plutôt de gauche, molle ou pas molle d'ailleurs, ou même radicale, et que ça ait mis 3 ans, ben c'est vrai que c'est quelque part un processus lent, mais important. Et aujourd'hui, par exemple, le compte, les personnes qui gèrent les outils sociaux de la plateforme Stop TTIP, CTA.be, relaye les actions du collectif TTIP Game Over. Ça veut dire quelque part qu'il n'y a plus, il faut à tout prix éviter nous et eux, quoi. On est ensemble dans un mouvement. C'est vrai que ça prend du temps, c'est vrai que c'est une question stratégique et que forcément une assoc qui reçoit des milliers d'euros de l'État pour faire des actions qui sont sur des sujets divers et variés, mais autour, on va dire, de la coopération développement, de l'environnement, de l'écologie et autres, va pouvoir moins prendre de risques officiels pour faire des actions qui les mettent en péril dans le système actuel envers la loi. Par contre, aujourd'hui, comme l'a dit Hugo tout à l'heure, on a beaucoup d'organisations qui nous rejoignent, qui nous soutiennent et qui, quelque part, montrent que c'est légitime, nécessaire et utile de mener des actions aussi de désobéissance civile. Donc voilà.
Ça s'est aussi vu dans d'autres pays européens. Hein. En France, on a vu pas mal d'actions de désobéissance civile il y a quelques années. Peut-être un peu moins maintenant. Est-ce que vous avez des liens justement avec des gens d'autres pays qui fonctionneraient de la même manière ?
En fait, je ne répondrai pas directement à ça. Ce que je dirais, c'est que aujourd'hui, par exemple, des gens qui utilisent l'outil de la désobéissance civile, par exemple, contre un fameux projet que tout le monde connaît, qui est l'aéroport de Notre-Dame-des-Landes, bah, aujourd'hui, c'est parce qu'il y a 100, 200 personnes qui occupent le terrain, qui luttent contre les tentatives, il y a quelques années, d'expulsion, contre les tentatives médiatiques aussi de récupération du truc. C'est parce qu'il y a 200 personnes et derrière des milliers de personnes qui soutiennent
beaucoup de
leur
Camille,
action.
Beaucoup de Camille.
Et d'ailleurs, plein de Camille et de Camille que ça fonctionne. Donc, bien sûr, les faucheurs français ont, par leurs actions de désobéissance civile, réussi à stopper la progression des OGM en France. En Belgique, pareil, le fait qu'il y ait eu des arracheurs de patates à Wetteren a permis d'arrêter la progression des OGM en Belgique. Il y a beaucoup d'autres exemples. Et en fait, historiquement, énormément de luttes ont été gagnées par la désobéissance civile, mais pas sur 2 mois, 6 mois, 1 an, sur des dizaines et des dizaines et des dizaines d'années.
C'est bien, ça rend optimiste tout ça. On se dit des fois que les combats sont perdus d'avance. Mais finalement, là, ce sont quand même plusieurs exemples qui montrent que ça peut fonctionner.
Personnellement, je pense que le TTIP, on va le stopper. Mais ça ne veut pas dire qu'on stoppera l'idéologie qui est derrière et les mécanismes qui continuent à vouloir toujours faire des traités de libre-échange.
Avant de se quitter, il nous reste cinq petites minutes. Juste pour reprendre pour les auditeurs, les auditrices et puis tout le monde d'ailleurs. Le TTIP, en gros, en 2 minutes, Camille, vous, dans votre vision, j'imagine que les visions sont aussi diverses et variées en fonction des activistes, des actions et tout ça, et des formes avec lesquelles on lutte contre. Du coup, le traité de libre-échange, les conséquences aujourd'hui, ce serait quoi pour les citoyens qu'on est ?
Donc le TTIP, c'est un accord de libre-échange négocié entre les États-Unis et l'Union européenne qui tend à diminuer les barrières réglementaires entre les deux marchés. Donc il tente d'harmoniser les normes, que ce soit des normes sanitaires, environnementales ou sociales, et des normes qui sont assez différentes en fait dans les deux pays. Et alors le but pour tout ça en fait, c'est d'attirer les investissements et en fait d'avoir un mécanisme de protection des investisseurs qui va avec les fameux tribunaux d'arbitrage ou cours d'arbitrage. Ils changent un peu pour espérer que ça passe mieux. Et en fait, ces cours d'arbitrage permettront à des États de s'attaquer, enfin des États, pardon, des entreprises de s'attaquer aux États précisément. Et en fait, quand ils prendraient une régulation qui ira à l'encontre de leur profit espéré, quoi. Donc,
imaginons, je travaille dans un pays où il y a un salaire minimum. Mm-hmm. Je suis une grosse entreprise multinationale américaine, par exemple, ou je ne sais quoi.
Française.
Ou française, ouais, par.
Ouais, parce qu'il y a.
Qui vient.
C'est intéressant.
Ouais, ou française.
C'est intéressant ce que tu dis parce qu'il y a vraiment un cas pratique comme ça en Égypte.
En Égypte. Oui, bah c'est ça. Ouais, c'est... je voulais venir à ça. Bah vas-y, raconte-le. Si vous pouvez le raconter, je pense que pour que les gens se rendent compte vraiment, en fait, au quotidien, qu'est-ce que c'est, qu'est-ce que moi, en tant que personne, ça me touche et comment. Donc cette histoire en fait en Égypte.
Ok, nous quand en Égypte il y a eu l'État qui a voulu augmenter le salaire minimum de 42 euros à 72 euros par mois et Veolia, donc une grosse entreprise française, a utilisé une clause ISDS, donc ces fameux tribunaux d'arbitrage, cours d'arbitrage, qui sont dans un accord de libre échange pour attaquer l'État et donc du coup ils ont dû rebaisser le salaire minimum.
Et le problème, c'est que ouais, les États, je veux dire, c'est pas comme s'ils prenaient tout le temps des initiatives pour améliorer les conditions sociales et puis les normes environnementales. Alors dès qu'ils en font, s'ils risquent peut-être de devoir payer, parfois les amendes, ça va jusqu'à 2-3 milliards, de devoir payer cette somme-là de dommages et intérêts parce que ça s'attaque aux intérêts des entreprises, ils sont de moins en moins enclins à le faire. Quoi. Donc on l'a vu aussi en Allemagne, où l'Allemagne voulait bannir le nucléaire. Paf, Vattenfall les a attaqués en disant que ça les expropriait. Ben oui, forcément, ça les expropriait, on ne veut plus de centrales nucléaires. Donc voilà, c'est vraiment une atteinte, ça c'est la plus grosse atteinte à la démocratie et aux droits des États à réguler.
Tout à fait. Ouais,
nous, on veut dénoncer la logique du libre-échange de manière générale. Et donc, on essaye, quand on communique, de l'introduire, le TTIP, dans l'histoire et dans le contexte politique. C'est-à-dire que ça fait 50 ans qu'on a plein d'accords de libre-échange, qu'on a une logique de libre-échange qui est de plus en plus forte. Et on est dans un contexte politique de capitalisme néolibéral. Et le TTIP, ce n'est en fait que la pointe de l'iceberg de ce système capitaliste néolibéral. Et donc, on essaye d'utiliser le TTIP pour pouvoir critiquer ça. Et le risque, c'est que si le TTIP, on arrive à le chasser, si on arrive à le chasser par la porte, il reviendra par la fenêtre. Et donc, on va gagner contre le TTIP, mais encore faut-il bien gagner, quoi.
C'est ça. Eh bien, écoutez, on va se quitter sur ces belles paroles. Nicolas, donc réalisateur du film Diversion, qui est présenté au Festival Esperanza, qui est diffusé en masse sur Internet. Comment on peut le retrouver, justement, sur le web ?
Eh bien, sur YouTube, en tapant Diversion TTIP, ou alors sur le site Internet du court-métrage, donc www.diversionlecourtmétrage.be. Et ce site Internet comprend aussi toutes les clés de lecture du court-métrage, mais aussi du TTIP, pour mieux comprendre le sujet abordé dans le film.
Merci. Camille, comment on peut soutenir, se rallier, se mobiliser avec vous, aller sur l'action directe, un site internet, je sais pas, un numéro de téléphone, une adresse?
On organise une formation le 10 et 11 septembre, parce que notre objectif, c'est que les gens puissent s'engager, puissent créer leurs actions, etc. Et on a un site internet qui est www.ttipgameover.net.
Et sur Facebook aussi, il y a une page ttipgameover.
Facebook ! Ah, j'ai vu ce matin, il était dans les entreprises là qui font partie. Attends, la question c'était qui a fait le plus de lobbying pour le TTIP? Les lobbies industriels qui ont le plus de contact avec le département commerce de la Commission.